Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel, 8h à Port-au-Prince.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Arthur Ponchelet.
Et 14h à Paris, RFI Midi, suite et fin. On est ensemble pendant une demi-heure pour faire le tour de l'actualité d'Haïti et du continent américain. Avec Haïti à la une, le gouvernement veut relancer l'économie avant la fin de l'année. Et pour cela, il entend donner un coup de pouce aux personnes les plus vulnérables. Des kits alimentaires et des aides financières doivent notamment être distribuées aux personnes âgées et aux familles monoparentales. Haïti, on en parle aussi avec notre invité ce midi, le politologue haïtien Jacques Nézy. Il revient avec nous sur l'année 2024 dans le pays, année qui s'achève sur un bilan tragique. Des centaines de milliers de déplacés internes, la moitié de la population en insécurité alimentaire. Et vous l'entendrez, la promesse d'élection fin 2025 paraît de plus en plus illusoire. L'actualité des Amériques est cette passe d'armes entre Donald Trump et le président du Panama ce week-end. Donald Trump a menacé le pays de reprendre le contrôle du canal de Panama. En cause, les droits de passage que le futur président américain juge injustes. Réponse hier de José Raúl Bulinho, je rejette fermement toute expression qui déforme cette réalité. Et puis le rendez-vous des Caraïbes, c'est avec vous, Alex Léveillé d'Outre-Vers la Première. Nous irons en Martinique.
Effectivement, pour parler de la visite à la prison de Ducos, de trois députés du chanter Noël d'antan.
A tout à l'heure, Alex. Mais d'abord, c'est le journal. Bonjour Gali Bonin.
Bonjour Arthur, bonjour à tous. Nous commençons ce journal à Mayotte, 10 jours après le passage du cyclone Chido, la France qui rend hommage aux victimes. Journée de deuil national pour honorer les 35 morts officiellement recensés. Le bilan officieux est sûrement beaucoup plus lourd et plus largement, une journée de soutien aux dizaines de milliers de sinistrés. À Mamoudzou, chef-lieu du département, une centaine de personnes sont rassemblées pour observer une minute de silence. Le préfet François-Xavier Bieuville a rappelé les priorités de l'État, protéger et secourir, acheminer de l'eau et de la nourriture en urgence, mais aussi rétablir les réseaux d'eau courante et l'électricité.
90% du territoire mahorais a été très endommagé, voire détruit dans certaines situations. Les maisons, bien sûr, et puis les usines d'eau, les usines d'électricité, les infrastructures de santé. Donc on est en train de reconstruire tout ça. On le reconstruit avec la difficulté de l'accès aux lieux. Sur les usines d'eau, par exemple, il aura fallu, dans un premier temps, déblayer les chemins d'accès qui permettent d'accéder à l'usine. Aujourd'hui, les 6 usines fonctionnent. Elles sont capables de délivrer potentiellement 90% de l'eau sur le territoire. S'agissant de l'électricité, on est dans une situation qui est à peu près équivalente. La totalité de l'infrastructure a été endommagée. La difficulté, c'est qu'il faut remonter des pylônes, retendre des fils et aller rebrancher chacun des endroits. Aujourd'hui, nous avons 35% des foyers qui disposent de l'électricité. Chaque jour, ce sera 1% supplémentaire, 3% supplémentaire. C'est un travail de fourmi. Voilà. Et nous sommes évidemment engagés sur le terrain.
Le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville. Autre victime des catastrophes naturelles, l'Australie, où plusieurs régions font face à de fortes chaleurs en cette fin d'année. Des températures élevées qui sont aussi synonymes du retour des feux de brousse. Dans le sud du pays, les autorités sont en état d'alerte pour les fêtes de fin d'année. Dans l'état Victoria, un important incendie a déjà ravagé 40 000 hectares. Et le pire pourrait bien être à venir, Léo Roussel.
L'incendie qui frappe la région montagneuse des Grand Pianes à l'ouest de Melbourne est hors de contrôle et devrait brûler pendant encore plusieurs jours. Mais ce qui inquiète les autorités de l'état du Victoria, ce sont les conditions météorologiques qui risquent de se détériorer et de permettre l'apparition de nouveaux foyers. Les températures vont grimper pour Noël et le thermomètre devrait dépasser les 40 degrés pour le Boxing Day, le tout accompagné de rafales de vent. Des conditions décrites par les pompiers comme les pires depuis l'été noir qui avait vu le pays subir les feux de forêt les plus importants de son histoire en 2019. Dans l'état voisin, l'Australie méridionale, plusieurs secteurs ont été placés en état d'alerte extrême face aux incendies pour les fêtes. Même chose en Australie occidentale où les températures ont dépassé les 40 degrés ce lundi. 5 ans après les gigantesques feux de brousse, le risque d'incendie s'invite donc de nouveau pendant les fêtes en Australie. Les autorités ont appelé les citoyens à la plus grande vigilance. Léo Roussel, Sydney, RFI.
RFI Midi.
En Syrie, le défilé des délégations étrangères se poursuit à Damas. C'est aujourd'hui les Jordaniens qui viennent établir des liens avec le nouveau pouvoir. La Jordanie espère obtenir des garanties sur la protection de ses 375 km de frontière avec la Syrie. Sous Bachar al-Assad, elle s'était transformée en passoire pour les narcotrafiquants de paragons syriens. Toujours au Moyen-Orient, Berlin met en garde la Turquie contre un durcissement de son conflit contre les forces kurdes en Syrie. La chef de la diplomatie allemande a appelé Ankara à la retenue, affirmant qu'une guerre ouverte n'aiderait personne, pas la Turquie, pas l'Europe, voire qu'elle profiterait à la résurgence de l'État islamique dans la région. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, la Turquie a soutenu une offensive de groupes armés contre les forces kurdes dans le nord du pays. Trois jours après la sanglante attaque sur un marché de Noël en Allemagne, l'Arabie Saoudite réagit. Riyad affirme avoir déjà demandé l'extradition de l'auteur présumé de l'attentat, un médecin saoudien de 50 ans. Selon une source anonyme de l'agence France-Presse, les services saoudiens auraient averti Berlin à plusieurs reprises que le suspect pourrait être dangereux, sans fournir plus de détails. Le gouvernement d'Olaf Scholz a promis hier une enquête rapide et minutieuse pour clarifier les potentielles erreurs des autorités dans la prévention de l'attentat. L'attaque survenue vendredi dernier a fait 5 morts et plus de 200 blessés. Aux États-Unis maintenant, c'est un crime sordide qui s'est déroulé dimanche à New York. Une femme a été brûlée vive en plein métro après qu'un inconnu ait mis le feu à ses vêtements. L'auteur présumé du meurtre a été interpellé par la police new-yorkaise. Il a été repéré grâce aux caméras de surveillance. Il serait resté sur place de nombreuses minutes après être passé à l'acte. Selon les autorités, il ne connaissait pas la victime et ses motivations restent inconnues. À New York, toujours, un autre meurtrier présumé s'apprête à comparaître devant un juge, Luigi Mangione. Le jeune homme est accusé de l'assassinat du patron d'une compagnie d'assurance médicale. Une audience qui sera suivie de très près. Correspondance sur place, Lubna Anaki.
La semaine dernière, Luigi Mangione comparaissait pour la première fois devant un juge fédéral de New York. Aujourd'hui, c'est à la Cour suprême de l'État de New York qu'il sera entendu. Car Luigi Mangione est poursuivi à deux niveaux, au niveau fédéral et au niveau local par l'État de New York. Deux affaires en parallèle pour le meurtre présumé début décembre de Brian Thompson, le patron de United Healthcare, une compagnie d'assurance maladie dont le jeune homme de 26 ans est soupçonné d'avoir voulu se venger. Aujourd'hui, le juge lui présentera les chefs d'accusation qui pèsent contre lui, notamment, je cite, le chef d'accusation de meurtre lié à un acte de terrorisme. Cette affaire continue de fasciner les Américains, parmi lesquels un grand nombre voient en Luigi Mangione un héros contre le pouvoir des entreprises privées d'assurance maladie. Une cagnotte mise en place pour l'aider à payer ses frais judiciaires a dépassé les 150 000 dollars. Lubna Anaki, New York, RFI.
En Amérique encore, ce sera un pays sans transgenres selon Donald Trump. Il l'a promis durant un meeting à Phoenix en Arizona devant une foule de jeunes conservateurs. Il a dit vouloir mettre un frein à ce qu'il appelle le délire transgenre dès son investiture le 20 janvier au programme des décrets pour interdire les transgenres dans l'armée et les exclure de l'école primaire jusqu'au lycée. C'est une annonce qui pourrait rebrasser les cartes de l'industrie automobile mondiale. Nissan et Honda ont signé un protocole d'accord en vue d'une fusion. Les numéros 2 et numéro 3 du secteur japonais l'ont annoncé ce lundi. Ils souhaitent terminer les négociations d'ici juin prochain, avec pour objectif faire des économies d'échelle dans leurs usines pour partager les coûts de développement dans l'électrique. Un projet de fusion observé de près par un autre poids lourd de l'automobile, le français Renault. Justine Fontaine.
Renault et Nissan ont formé une alliance il y a 25 ans déjà, et même si le constructeur français a un peu réduit sa participation dans le groupe japonais ces dernières années, Renault détient encore 35% du capital de Nissan. Problème, ça ne suffit pas pour avoir un droit de veto sur les décisions de l'entreprise nippone, et la future holding voulue par les constructeurs japonais n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour le français, car elle risquerait d'affaiblir l'alliance que Renault et Nissan avaient nouée avec un autre constructeur japonais, Mitsubishi, un partenariat déjà franchement ébranlé par l'affaire Carlos Ghosn, du nom de l'ancien patron de cette alliance, arrêté au Japon en 2018 pour des soupçons de malversation, et qui, souvenez-vous, avait pris la fuite vers le Liban. Aujourd'hui, Renault construit des Nissan dans le nord de la France et partage avec la firme japonaise une grande usine et un centre de recherche en Inde, axé sur l'électricité. électriques. La question est de savoir si Nissan gardera ses partenariats en l'état ou décidera plutôt de se désengager après la fusion avec Honda.
Justine Fontenelle, et à vous la suite de RFI Midi, Arthur Ponchelet.
Merci Gali Bonin, on vous retrouve dans 2 heures pour un nouveau journal.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
On passe tout de suite à l'actualité d'Haïti et des Amériques avec la revue de presse. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Arthur, bonjour à tous.
On commence donc par prendre la direction d'Haïti, où le gouvernement veut donner un coup de pouce aux personnes plus vulnérables et relancer l'économie avant la fin de l'année.
Et oui, pour cela, il a lancé un programme spécial et débloqué plus d'un milliard de gourdes, soit un peu plus de 7 millions d'euros pour couvrir les besoins les plus urgents. C'est en une du site de Gaza. Gazette Haïti qui s'appuie sur un communiqué du gouvernement. L'objectif, c'est aider les foyers les plus pauvres en distribuant des kits alimentaires, en envoyant des aides financières. Les autorités ciblent d'abord, Arthur, les personnes âgées, celles en situation de handicap et les femmes qui gèrent toutes seules les foyers. Toujours selon le gouvernement, des cantines mobiles et des restos communautaires vont être mis en place pour distribuer des repas chauds un peu partout dans le pays. Le ministère de l'Intérieur et les mairies vont aussi lancer un grand nettoyage des villes. L'objectif, c'est de ramasser les déchets et assainir les zones urbaines. Pour la sécurité, l'armée et la police nationale vont se charger de protéger les zones sensibles, de fluidifier la circulation afin que les produits pétroliers importants arrivent bien dans les ports et les aéroports. Le gouvernement prévoit aussi d'augmenter la production d'électricité, très important aussi pendant les fêtes de fin d'année. Et côté santé, toujours selon Gazette Haïti, le ministère de la Santé redoublera d'efforts pour mieux répondre aux besoins médicaux et renforcer les services dans les hôpitaux.
Vous restez avec nous, Arim Lipold. On continue de parler d'Haïti avec notre invité ce midi, le politologue haïtien Jacques Nézy, membre du laboratoire caribéen de sciences sociales. On fait le bilan avec lui de l'année qui vient de s'écouler en Haïti, 2024, qui s'achève sur un bilan tragique, des centaines de milliers de déplacés internes, la moitié de la population globale en insécurité alimentaire, un pays quasi coupé du monde. Et la promesse d'élection fin 2025 paraît bien illusoire, tant la fureur des gangs repousse chaque jour un peu plus les limites, malgré le déploiement très modeste d'une mission internationale emmenée par le Kenya. Jacques Nézy est au micro de Vincent Souriau.
Bonjour Jacques Nézy.
Bonjour Monsieur Souriau.
L'année 2024 s'achève par une nouvelle litanie de tueries, hein, les massacres de Wharf Jérémy, de Petite Rivière dans l'Artibonite, les incidents chaque jour à Port-au-Prince. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut s'attendre toujours au pire ?
Oui, on peut s'attendre au pire pour deux raisons. Premièrement, il n'y a pas une volonté politique affirmée pour arrêter et limiter la puissance des gangs. Parce qu'on le voit bien, depuis quelques mois, les gangs ne font que gagner du terrain. Et puis, deuxième élément, une absence de politique contre les gangs, mais qui se traduit par une sorte d'indifférence et un flou, parce que Haïti dépend sur le plan politique des États-Unis d'Amérique. On sait aux États-Unis d'Amérique qu'il y a une transition qui est en cours. Donc, c'est-à-dire la question haïtienne aujourd'hui, elle n'est pas prise en compte par le département d'État.
On a du mal à faire la part des choses. Il y a chaque jour des cadavres découverts dans la rue et chaque jour la police nationale haïtienne qui revendique la reconquête de certains territoires perdus, des politiques qui déplorent à chaque fois ces décès et qui promettent plus d'actions. Qu'est-ce que vous y voyez ? Est-ce que vous y voyez aussi une bataille de communication en quelque sorte ?
Oui, on peut le poser comme hypothèse, hein, une bataille de communication. Et puis, plus les gangs s'affirment, plus l'État, on peut dire qu'il s'effondre complètement. Parce que ce qui reste aujourd'hui, il reste un conseil présidentiel de transition, mais complètement impotent, inefficace depuis 8 mois, un bilan totalement médiocre. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une victoire, entre guillemets, ne serait-ce que symbolique, mais cette victoire, elle n'est pas confirmée. Donc on a l'impression que même les autorités nationales ne veulent pas résoudre le problème. Parce que ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est l'organisation des élections, l'allocation des ressources à travers la nomination de certains postes aux ambassades. Ils se préparent maintenant à nommer un certain nombre de responsables des directions générales. Ce qui les intéresse, c'est l'accès au pouvoir pour l'accumulation rapide de richesses, de prébendes, de constituer, de construire et d'entretenir sa clientèle.
On va revenir sur le cas de l'exécutif haïtien et de ces querelles de pouvoir entre le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement. Mais je voulais vous parler d'abord de la MMAS, la mission multinationale d'appui à la sécurité. C'est l'un des éléments majeurs de l'année 2024 en Haïti. Cette mission est déployée depuis l'été. À quoi elle a servi, de manière très simple? Quel est le bilan de cette mission, de cette MMAS soutenue par les États-Unis?
Le bilan de cette mission, il est complètement médiocre. Aussi nul que le bilan des gouvernements précédents, c'est-à-dire CONI et y compris aujourd'hui Didier Fils-Aimé. Puisque la MMAS ne dispose de moyens importants pour contrer et pour limiter la puissance des gangs, ce qui est marquant dans l'opinion publique haïtienne aujourd'hui, non seulement les populations de Poupelade, de Nazon sont obligées de fuir, mais c'est qu'ils viennent d'incendier le plus grand centre hospitalier privé de Port-au-Prince, on peut dire le seul, qui pourrait soigner par exemple des pathologies importantes en neurologie, etc. Et c'est un investissement purement privé, assumé par des professionnels et qui avaient une sensibilité patriotique parce qu'ils soignaient des gens à but non lucratif. Ils viennent de mettre d'incendier complètement ce centre hospitalier, ce qui est marquant, alors que la police nationale était présente. Donc c'est dire cette mission Kinyan, elle n'a servi à rien, sinon qu'à camoufler, qu'à reporter un problème, puisque c'est une économie criminelle qui s'organise et qui dépasse même les frontières haïtiennes.
On a vu que les gangs s'adaptaient d'ailleurs à l'actualité politique, avec des offensives au moment des passations de pouvoir, des tirs délibérés sur les avions pour entraîner la fermeture de l'aéroport de Port-au-Prince. Et c'est une question qui se pose toujours, que vous évoquiez à demi-mot. Est-ce que les groupes armés ont aussi, selon vous, des visées politiques, pas seulement le chaos, mais aussi prendre le pouvoir?
Ils ne s'étaient pas affirmés il y a quelques mois, mais maintenant ils l'ont dit, ils ont cette ambition politique de prendre le pouvoir. Et certains expliquent qu'il y a des alliances souterraines avec quelques acteurs politiques, des gangs qu'ils ont financés, qu'ils ont protégés, puisqu'il faut le rappeler, les gangs avaient deux fonctions tout au début, mater toute contestation populaire, et deuxième élément, l'organisation des élections devait servir à confirmer la prise du pouvoir du PHTK.
Alors justement, l'organisation de ces élections, c'était l'un des éléments clés du mandat de ce Conseil présidentiel de transition qui a été créé au mois d'avril par l'accord du 3 avril. On a parlé à l'époque d'un moment fondateur, la fondation de ce Conseil présidentiel de transition qui allait rétablir un peu de stabilité. Pourtant, comme vous le disiez, on a eu trois premiers ministres en 2024, Ariel Henry, Gary Conny et Alix Didier Fils-Aimé. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous après la constitution de ce CPT?
Le CPT ne pouvait pas marcher puisque le péché originel, c'est la construction même de la structure. Elle est bancale, elle ne peut pas marcher puisqu'elle est composée de tendances diverses mais qui ne s'entendent sur rien. Ce sont des groupes qui visent à s'enrichir dans un premier temps et puis de l'autre à distribuer postes et prébendes à leur clientèle politique. Et puis ensuite, il est miné par cette crise morale, la corruption dont on accuse les trois principaux représentants au sein du CPT. D'ailleurs, le dossier est instruit par un juge, mais le juge a convoqué les trois membres. Ils n'ont pas répondu à la convocation du juge. Donc, c'est dire qu'ils sont tout puissants, mais au fond, l'agenda préoccupant pour le CPT, ça aurait été de résoudre la question sécuritaire. Ce qui les intéresse, c'est l'organisation des élections dans les conditions les plus détestables. On voit bien que ces élections ne sont même pas possibles. Il y a plus de 6 millions d'Haïtiens qui sont menacés de famine aujourd'hui. Port-au-Prince est coupé du reste du monde, pas seulement Port-au-Prince, Haïti. Et puis, il y a aussi une économie exsangue, plus de 800 000 personnes déplacées qui vivent dans des conditions déshumanisantes, dans des camps où ils vivent dans des conditions détestables. Et tout ceci dans l'indifférence du Conseil présidentiel de transition.
Et tout ça interdit, selon vous, la tenue des élections qui sont censées être organisées d'ici la fin de l'année 2025. Parce qu'on avait l'impression, depuis la semaine dernière, avec la composition du Conseil électoral enfin au complet, qu'on pouvait peut-être parler d'une bonne nouvelle.
Non, les conditions ne sont guère réunies pour l'organisation des élections. Ce qui préoccupe aujourd'hui, ce qui est important, c'est de résoudre la question sécuritaire. Le Conseil présidentiel de transition s'appuie, par exemple, aujourd'hui sur l'arrivée du président américain pensant qu'il y aurait une solution. Mais de mon point de vue, il n'y aurait aucune solution locale, puisqu'on voit bien l'administration qui va arriver, l'administration américaine, a déjà banalisé la question haïtienne quand on prend les déclarations de Donald Trump déjà en 2018, considérant Haïti comme étant un pays de, je ne cite pas le terme. Et puis ensuite, il a fait des déclarations accusant les Haïtiens, notamment de l'Ohio, de mangeurs d'animaux domestiques. Donc c'est dire qu'il a une distance, une perception très raciste vis-à-vis de la question haïtienne.
Merci beaucoup, Jacques Nézy.
Je vous en prie.
RFI, la radio del mundo.
Il est 8h20 à Panama City comme à Washington, pas encore en poste, que déjà, il se met à dos son futur homologue panaméen. Donald Trump était hier à Phoenix pour l'America Fest, événement annuel d'une organisation conservatrice pour la jeunesse américaine. Le futur président a balayé tout un tas de sujets et s'en est pris au Panama et son célèbre canal. Devant ses partisans, le président élu a dénoncé les droits de passage qu'il juge ridicules.
The Panama Canal. Has anyone ever heard of the Panama Canal?
Le canal de Panama, est-ce que vous en avez déjà entendu parler, dit Donald Trump, qui poursuit, parce qu'on se fait arnaquer au canal de Panama comme on se fait arnaquer partout ailleurs. Le président élu des États-Unis menace de reprendre le contrôle du canal. Ce dernier a pourtant été rendu aux Panaméens en 1999 par les États-Unis. Évidemment, la sortie a fait vivement réagir le président du Panama, José Raúl Mulino.
En tant que président, je souhaite exprimer clairement que chaque mètre carré du canal de Panama et de ses zones adjacentes appartiennent au Panama et continueront à lui appartenir. La souveraineté et l'indépendance de notre pays ne sont pas négociables.
Une déclaration qui prend le pays de court pour Annette Planels, militante de la société civile panaméenne. Aucune nouveauté majeure n'annonçait cette réaction du président élu.
On est très surpris parce qu'il n'y a rien de nouveau qui pourrait provoquer cette réaction du président Trump. Il n'y a aucun changement concernant les tarifs du canal. Au contraire, on les annonce des années en avance. Les tarifs ont commencé à augmenter en 2023 et cette hausse prend fin en 2025. Ce n'est pas nouveau. Et cette augmentation concerne tous les pays sans distinction. Ensuite, avec cette déclaration, on a l'impression d'un retour dans le passé. La restitution du canal de Panama aux Panaméens a pris 15 ans et elle s'est produite il y a 25 ans. L'anniversaire aura lieu le 31 décembre. On ne comprend donc pas ce qui a pu déclencher cette réaction du président élu.
Et on continue de feuilleter la presse avec vous, Achim Lippold, puisque ces propos de Donald Trump font aussi réagir beaucoup de journaux au Panama.
Exactement. Pour le journal La Prensa, la récente menace surprise de Donald Trump, donc de récupérer le canal de Panama d'un pays qui a été un allié stratégique des États-Unis, comme le rappelle le journal, eh bien cette menace est extrêmement grave. Cette déclaration ouvre la porte à une dangereuse tentative de la prochaine administration américaine de faire revivre au XXIe siècle la doctrine Monroe obsolète et aberrante. Ces doctrines anticolonialistes datant de 1823 étaient censées dissuader les Européens d'intervenir aux Amériques, mais elle a été aussi utilisée plus tard pour justifier des prétentions interventionnistes de certains présidents américains. Le journal La Estrella de Panama cite l'ancien administrateur du canal de Panama, Alberto Alemán Zubieta, qui a qualifié les déclarations de Donald Trump de malheureuses, soulignant les décennies d'administration efficace et sûre de cette voie navigable entre les mains des Panaméens. La Prensa dénonce des propos anachroniques et délirants qui méritent, je cite, d'être rejetés avec force et vigueur, non seulement par le gouvernement panaméen du président José Raúl Mulino, on vient l'entendre, l'Assemblée nationale et tous les secteurs unis dans la défense de la souveraineté nationale, mais aussi par l'ensemble de l'Amérique latine.
Donald Trump qui provoque donc des remous en Amérique centrale, mais aux États-Unis, sa nouvelle présidence inquiète aussi et particulièrement les démocrates.
Et oui, la Californie entre en résistance, titre le site d'information Politico, mais elle sera différente de celle de 2016 lorsque Donald Trump a été élu pour la première fois à la Maison-Blanche. Après cette nouvelle victoire du républicain, eh bien, certains groupes progressistes en Californie, comme le Irvine Democratic Club par exemple, préfèrent désormais Bah, carrément, la thérapie de groupe aux manifestations de masse, selon Politico, cette nouvelle approche reflète une Californie où l'on privilégie la réflexion et la résilience émotionnelle plutôt que l'activisme de rue, l'appel à manifester. Cependant, derrière ces séances de gestion de stress post-élection Donald Trump, se cache une prise de conscience très réelle. La Californie, bastion progressiste et démocrate, montre des signes d'évolution politique et l'influence conservatrice y gagne du terrain.
La revue de presse signée Arim Lipold, merci à vous et très belle journée.
Le journal de l'Outre-mer.
L'actualité des Caraïbes avec Alex Léveillé, d'Outre-mer la première. Alex, trois députés à la prison de Ducos, Jean-Philippe Nilor, Marcelin Nadeau de la Martinique et Jean-Victor Castor de la Guyane.
Et ils étaient accompagnés de maître Georges-Emmanuel Germani. Ils ont dénoncé les conditions de détention et la surpopulation carcérale. Maître Georges-Emmanuel Germani.
Effectivement, les nombreuses condamnations de la France pour les conditions indignes de détention sont justifiées. En plus de la question de la surpopulation carcérale, se pose, même sans surpopulation, la question de la taille des cellules et notamment du fait qu'elles sont mal aménagées, il n'y a pas de douche dans beaucoup de cellules. Et quand on met les toilettes à l'intérieur de la cellule, par contre, c'est source d'une grande souffrance, d'une atteinte à la dignité. Cet endroit porte atteinte à la dignité humaine. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne parle même pas de la qualité des repas. On nous explique qu'il y a des problèmes budgétaires. Mais en fait, en face de ça, j'ai le sentiment que si on prenait conscience qu'on porte atteinte à la dignité humaine, on ne nous expliquerait pas tout ça, on réglerait le problème.
Maître Emmanuel Georges Hermani. Et les chantés Noël aux quatre coins de la Martinique, c'est de tradition cette période, mais il y en a un qui a rassemblé plus de 400 personnes ce week-end. Un chanté Noël en temps longtemps, au quartier Montjoli, au Morne-Vert, Alain Livoré de Martinique la première.
Bois, chacha, tambour et pilavoir. Chaque année, depuis plus de 15 ans, l'association Casse des Pitons organise un chanté Noël traditionnel.
C'est la joie de vivre, c'est convivial, on fait la fête, on est là jusqu'à l'autre.
Ici, les maîtres mots sont authenticité, convivialité et partage. Félix Ludivion est le président de l'association Casse des Pitons.
On a décidé avec les membres qu'on ne veut pas d'instruments de musique après, à part du tambour et tout. Nous ne voulons pas de micro pour que tout le monde puisse participer. Et puis c'est familial, c'est convivial.
On vient de toute la Martinique et même de l'Hexagone pour assister à ce chanté Noël.
J'habite en France, je suis venu prendre l'ambiance, le pouls juste avant Noël.
Et moi, monsieur, quand j'ai chanté Noël, d'abord, mon cabini et mon gros dosa.
Et moi, je vous dis franchement, là, moi, je vis dans un vrai cantique de mon île.
Est tellement conviviale que même Madame le maire met la main à la pâte. Elle est membre de l'association qui organise et il est tout à fait normal de se faire servir une boisson, du boutin ou encore son plat de ragoût de cochon, igname et pois d'angole par Angèle Serbin, maire du Morne-Vert.
Au même titre que les membres, j'ai mon job. Donc je vais recevoir les visiteurs, je vais servir, voilà.
Un chanté Noël qui a duré jusqu'à 6 heures du matin et qui s'est terminé par un traditionnel pain au beurre chocolat.
Eh oui, l'ambiance des Outre-mer avec ce sujet signé Alain Livoré. C'est la fin de cette édition. Merci à Nicolas Palcochion pour la réalisation et joyeux Noël à tous.
Arthur. Et ça donne envie de danser, Alex Léveillé. Merci et très belle journée. On va se quitter en musique. Nous aussi, on va danser dans les studios de RFI avec Roger et son titre A Força.
Bata lá e tem justiça na força de Xangô e vem tomar a força de Iemanjá e vem você com a força do nosso amor e vem do céu a força de Obata lá e tem justiça na força de
C'est ainsi que s'achève RFI Midi, préparé et réalisé aujourd'hui avec Stéphane Desfossés et Emmanuel Klotz. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est De Vive Voix sur la Radio du Monde.